VOA Afrique, les infos. À Washington.
Chérubin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité, votre rendez-vous hebdomadaire de tous les lundis avec l'actualité sportive, Sporama bien sûr. Ce sera dans quelques minutes avec Nicolas Pineau, mais en attendant, les dernières nouvelles du monde. 8 militaires maliens ont été tués ce lundi dans le nord-ouest du Mali au cours d'une embuscade tendue par la rébellion à dominante Touareg, indique l'AFP qui cite le responsable d'une ONG de Tombouctou. Selon ce responsable, l'embuscade a été tendue ce matin entre Tombouctou et Gundam par les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad. Le bilan a d'ailleurs été confirmé par une source sécuritaire malienne, faisant état d'au moins 8 morts et 10 blessés. Le point sur les troubles électoraux au Burundi, alors que les manifestations s'opposant à un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza se poursuivent, l'Union européenne, les États-Unis et la Suisse appellent à un report des élections. C'est dans ce contexte que la Belgique, premier partenaire du processus électoral, prend ses distances vis-à-vis de Bujumbura. Timothée Donangmaye.
Nous avons encouragé fortement le gouvernement burundais à prendre des mesures d'apaisement et l'idée d'un glissement du calendrier électoral serait à nos yeux une bonne chose, a déclaré l'envoyé spécial de l'UE pour la région, Kurt Verwijker, qui s'exprimait aussi au nom de la Suisse et des États-Unis. Les Pays-Bas et la Suisse ont annoncé la suspension de leur aide électorale au Burundi, emboîtant le pas à la Belgique. En réaction à la répression policière à l'encontre des protestations, l'ex-puissance colonisatrice a suspendu le versement de 2 millions d'euros destinés à soutenir les élections au Burundi. Elle a également interrompu sa coopération policière avec Bujumbura. La mission d'observation électorale de l'Union européenne au Burundi a jugé que les conditions pour des élections libres n'étaient pas réunies pour l'instant, explique le vice-premier ministre Alexander De Croo. Le coût du processus électoral est estimé par Bujumbura à quelque 60 millions de dollars. Le Burundi dit pouvoir en assumer 21 millions.
Clôture du forum de réconciliation à Bangui. Les délégués devant proposer une sortie de crise en RCA demandent le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard au mois d'août. D'après l'AFP, le forum de Bangui en appelle aux autorités de transition pour qu'elles introduisent au plus tôt auprès de la communauté économique des États d'Afrique centrale la demande de prorogation, à titre exceptionnel, de la transition et donc le report des élections réclamées par la communauté internationale. Mathieu Ngoudjolo, le premier suspect à être acquitté par la Cour pénale internationale, a été expulsé vers Kinshasa, en République démocratique du Congo, aujourd'hui. C'est ce qu'ont révélé ses avocats. À la suite de son acquittement par la CPI, Ngoudjolo avait dit craindre pour sa sécurité s'il était renvoyé en République démocratique du Congo. Toutefois, les autorités de l'immigration des Pays-Bas ont estimé qu'il ne remplissait pas les exigences nécessaires pour accepter sa demande d'asile dans ce pays. Opération Ville Morte à Beni, dans l'est de la RDC. Les habitants dénonçaient aujourd'hui l'inefficacité de l'armée et des autorités après un énième massacre de civils dans la région. Les miliciens des ADF sont soupçonnés d'avoir tué plus de 300 personnes depuis octobre. Un massacre vendredi aurait fait 7 morts. Guinée, l'ex-dirigeant militaire Moussa Dadis Camara, en exil au Burkina Faso, a déclaré ce lundi à Ouagadougou qu'il est candidat à la présidentielle en Guinée. Il a d'ailleurs créé son parti dénommé Force Patriotique pour la démocratie et le développement. Au Burkina Faso, les responsables des médias réagissent à la suspension de 3 mois des émissions interactives ordonnée la semaine dernière par le Conseil supérieur de la communication. Au micro d'Idriss Fall, Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo.
De très mauvais enjeux, à savoir essentiellement la situation des journalistes du Burkina, le syndicat autonome des travaux de l'information et de la culture cinématique et de la société des éditeurs de la presse privée. Nous sommes contre cette mesure. Parce qu'en réalité, c'est un recul assez grave par rapport à la liberté d'expression et de presse. Surtout que cette mesure intervient 4 jours après la journée de la commémoration de la journée internationale de la presse, où au niveau national, par exemple, nous avions comme thème médias d'État ou médias de service public, quel avenir et quelle perspective. depuis le combat que nous avons mené après l'assassinat de notre confrère Norvège Zongo. En pleine lutte à l'époque, avec ce qu'on appelait Radio Entreparler, le gouvernement de la campagne de Pouy avait pu interdire ça. Mais par la suite, avec les différentes luttes, les médias ont pu quand même, la société civile, les organisations des droits de l'homme et autres, on a pu arracher quand même des espaces de liberté afin de permettre aux citoyens de s'exprimer et de donner leur opinion sur la gouvernance politique. C'est pourquoi nous sommes étonnés que le CSC, sans même approcher les médias, a décidé de suspendre donc faire cette émission interactive sans même concerter qui que ce soit. Nous pensons que c'est une volonté affichée de faire en sorte que les citoyens ne puissent pas même se prononcer. Et surtout, cela intervient souvent dans le cadre de ce que les anciens dignitaires appellent l'exclusion.
C'était Justin Koulibaly, président du Centre national de presse Norbert Zongo au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, les évêques catholiques mettent en garde. Une élection présidentielle apaisée en octobre passe par le désarmement des ex-combattants. Crise humanitaire au Soudan du Sud. Plus de 300 000 civils se trouvent sans assistance de base dans l'état d'unité dans le nord du pays. L'ONU a en effet annoncé son retrait en raison des combats qui sévissent dans la région.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Le roi Salman d'Arabie Saoudite ne sera pas au sommet américano-arabe convoqué cette semaine à Washington par le président Barack Obama. C'est ce qu'a annoncé hier son ministre des Affaires étrangères, Adel Al-Joubeir, annulant également une réunion à la Maison-Blanche qui avait été annoncée il y a seulement quelques jours. Lionel Gaïma.
C'est mercredi que doit s'ouvrir le sommet en présence des délégations de 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe en visite à la Maison-Blanche, avant de se poursuivre jeudi avec de pourparlers à Camp David avec le président Obama. Selon M. Joubeir, le roi Salman envoie à sa place le prince héritier Mohamed bin Nayef. Il explique que le sommet coïncide avec le cessez-le-feu de 5 jours et les efforts humanitaires au Yémen voisin, où l'Arabie saoudite a mené une campagne de frappe aérienne contre les rebelles chiites Houthis. Un officiel de l'administration Obama a dit que ce changement n'était pas, et je cite, « en réponse à une quelconque question substantielle ». Avec l'absence du roi Salman, seul l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et celui du Koweït Sabah Ahmad Al Sabah dirigeront les délégations de leur pays. Le sultan d'Oman Qaboos bin Saïd et le président Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis disent qu'ils ne seront pas au rendez-vous de Washington pour des raisons de santé. En revanche, aucune explication sur le fait que la délégation de Bahreïn sera dirigée par le prince héritier plutôt que par le roi Hamad bin Issa Al Khalifa. La semaine dernière, un porte-parole de la Maison-Blanche, Eric Schulz, avait dit qu'il y aurait, à ce sommet, des discussions sur le renforcement de la coopération sécuritaire avec les nations du Golfe et la recherche d'approches communes concernant les conflits en Irak, en Syrie, en Libye et au Yémen. Les pourparlers porteront vraisemblablement aussi sur les négociations au sujet du nucléaire iranien et les préoccupations des États du Golfe selon lesquelles Téhéran obtiendrait la levée des sanctions tout en préservant sa capacité à fabriquer une bombe atomique.
Au Yémen, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 autres blessées ce lundi dans de puissantes explosions déclenchées par 2 raids aériens de la coalition. Selon des sources médicales, les frappes visaient un dépôt d'armes tenu par la rébellion chiite près de Sanaa, la capitale. Le secrétaire d'État américain John Kerry sera l'invité de Vladimir Poutine à Sochi demain, des pourparlers cruciaux sur fond de tension liés au conflit en Ukraine. La Grèce a déclenché aujourd'hui la procédure pour rembourser 750 millions d'euros au Fonds monétaire international, paiement prévu pour demain, mardi. Les autorités judiciaires du Mississippi, dans le sud des États-Unis, ont inculpé 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre de 2 policiers samedi soir. Saloua Jafari.
La petite ville de Hattiesburg dans le Mississippi n'avait pas enregistré d'attaque meurtrière contre un policier depuis 30 ans. Cette statistique a changé samedi soir quand Benjamin Dean, 34 ans, et Lee Coritat, 24 ans, ont été abattus alors qu'ils venaient d'arrêter un automobiliste. C'est en tout cas la version officielle. Ils ont été transportés à l'hôpital mais n'ont pas survécu. Selon le bureau de la Sûreté de l'État du Mississippi, 2 suspects âgés de 29 et 22 ans sont accusés de meurtre et passibles de la peine capitale. 2 autres, dont un frère de l'un de ces 2 accusés, ont été inculpés pour complicité et obstruction à la justice hier dimanche. Au moins un des accusés a clamé son innocence. Ce double meurtre est venu rappeler les conditions dangereuses entourant le métier de policier, à un moment où les hommes en bleu sont sujets à de fortes critiques suite à des cas répétés de brutalité et de meurtres de noirs non armés dans le Mississippi, l'Ohio, à New York, plus récemment à Baltimore, dans le Maryland.
Merci Saloa Jafari. Restez à l'écoute de VOA Afrique. Sporama, tout de suite. Ici chez Romain Dorsil.
Soyez au cœur de l'info.